et en veut trois. Vous souvenez, au milieu de Sefer Bamidbar, il y a un petit Sefer qui dit, simplement c'est les deux phrases de Vaïe Binso à Aaron, les deux phrases qu'on dit quand on sort le Sefer Torah, qui sont entre deux nouns à l'envers, et qui sont considérés comme un Sefer pour soi. Ce qui fait que on a Bamidbar jusqu'à ces deux versets, jusqu'à l'entre-deux-nouns, un deuxième livre et un troisième livre depuis l'entre-deux-nouns jusqu'à la fin de la Midbar. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir Hamisha Chumshe Torah, on en a sept. On a Shiv et Shiv A, Chelke Torah. Sept par la Torah. Mais ça, on verra plus loin. Je vais d'abord voir avec vous l'introduction du Genetziv, le Emek Davar, sur le Sefer Bamidbar. C'est toujours au début des Sfarim, toujours une introduction dans laquelle il met l'accent sur les points qui lui semblent fondamentaux dans le Sefer Bamidbar. On lui dit qu'en fait, dans la Gemara, le Sefer Bamidbar, enfin Bamidbar, il s'appelle Bamidbar parce que ce sont les premiers mots, comme tous les autres, ce sont les premiers mots du Sefer. Et on appelle Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Bamidbar, Sefer Vaikra, Bamidbar, Sefer Bemidbar. Et dans la Gemara, dans Masechet Yuma, la Mishnah, on a aussi un autre endroit dans ça, que ce Chumash-là, il appelait Chumash Apkudim. Le Chumash des tâches, on pourrait dire, des fonctions. Sont donnés à chacun. Et le Baal HaHalakhot Gdolot, il appelle ça aussi Chumash HaPkudim. Et en fait, ça veut dire que il y a deux grandes tâches dans ce faire, plus, enfin, qui jouent un rôle tout à fait particulier. Elles jouent un rôle particulier, c'est vrai. Et il y a le problème, à part ça, il y a le problème des Meraglim. Il y a le problème dans Sefer Bamidbar, il y a le problème des explorateurs. Les explorateurs, ça veut dire 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Donc, c'est-à-dire d'avoir repoussé complètement l'entrée en Eretz Israël, ça a changé complètement la donnée. Et après, il y a les brachot de Bilham, qui sont quelque chose de tout à fait spécial, parce que toute la paracha parle de Balak et de Bilham. C'est une paracha dans laquelle les Bnei Israël n'interviennent pas du tout de façon active. C'est une paracha que Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu, mais depuis la naissance, depuis l'intervention de Moshe dans l'histoire, si vous voulez, dans toutes les parachiotes, Moshe est partie prenante. Il est là, ça se déroule devant lui, avec lui. Seulement, cette histoire de Barak et Bilam, c'est une histoire, moi j'appelle ça, ça s'est déroulé dans les chancelleries, quoi. Dans les chancelleries, on a discuté qu'est-ce qu'on va faire du peuple juif. Comment on va faire pour éradiquer le peuple juif, ou etc. Même si pour certains, ça partait d'une grande peur, quoi. Ils avaient peur d'Israël. Mais aussi beaucoup d'autres choses. Mais en fait, ce Sefer, il est en quelque sorte à la jonction de la période depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à un moment où quelque chose va changer et on va se préparer à l'entrée en Eretz Israël. Parce que le Sefer Dvarim, c'est une répétition. Donc, si vous voulez, la trajectoire des Bnei Israël, elle commence dans le Sefer Shemot, et puis elle se termine dans le Sefer Bamidbar. Après, le Sefer Dvarim, il parle, on revient en arrière, mais on a fini avec les pérégrinations des Bnei Israël, se termine à la fin du Sefer Bamidbar. Mais justement, les dernières parchiot, les derniers textes de Sefer Bamidbar, il y a un changement radical, et l'important, c'est que ce changement radical a lieu dans ce Sefer Bamidbar. Il n'a pas lieu, si vous voulez, à la fin, tout, on a, après Bamidbar, on va passer à autre chose. il y a un commencement de ce changement qui se fait jour dans le Sefer Dvarim, dans le Sefer Bamidbar, dans notre Sefer ici, il y aura un commencement. C'est-à-dire que les Israël, quand ils sont sortis de Mitzrayim, comme il dit, Ayu mitnagim bemilat tiferet, ils étaient guidés par la splendeur. C'est en fait, Hachem était là. Et là avec eux en permanence. Shalar l'émin Moshe, parce qu'ils étaient dirigés par, par Moshe, lui était complètement au-dessus du fonctionnement de la nature. Il dominait complètement la nature. Et quand ils vont entrer en Eretz Israël, là, ils sont Bederech HaTeva. Ils vont fonctionner comme les autres. C'est-à-dire que la Hashgaha, la providence de la Malchut Shamaim, providence d'Hachem, en Eretz Israël, elle sera plus difficile à distinguer. Quand les Bnei Israël sont dans le désert où ils mangent la manne, ils ont l'eau du verre de Myriam, etc., ils sont protégés par les nuées, voilà, c'est tout à fait autre chose. Et quand ils vont entrer en Eretz Israël, ben, ils vont devoir vivre comme tout le monde, sauf qu'il faudra reconnaître que tout ce qu'ils auront fait, c'est toujours un cadeau d'Hachem, c'est toujours Hachem qui s'occupe d'eux. Ça sera la tâche des Bnei Israël. Et donc, ça commence la 40e année, comme il va l'expliquer dans Parshat Chukat, quand on n'y est pas encore, et il va expliquer à ce moment-là qu'il y a un changement ici radical. Et d'après ça, effectivement, les guerres que les Bnei Israël vont faire contre les Cananéens, contre Sihon, etc., elles se déroulent Bederech HaTeva. Elles se déroulent naturellement. C'est pas une guerre où Hachem ilachem lachem et vous taisez-vous. Pas comme la guerre contre Mitzrayim. Hachem fait tout le travail et nous on a essentiellement à se taire. Et par exemple, Gam Ramaté, le Hayavot Biat Moshe, Tamid, et le fameux bâton de Moshe Rabbeinu avec lequel il a fait tout le possible, Moshe Rabbeinu ne l'a pas en ce moment, dans ses parcours, l'est à Tzorech, quand c'est vraiment nécessaire. Et sur ce chinouille-là, sur ce changement-là, qui a lieu dans notre sefer, les Chachamim, dans Bereshit Rabba, ils disent, Vayavdel Elohim ben Haor ben Hachosher, pour le verset qui dit que Elohim a fait la différence entre la lumière et l'obscurité, les ténèbres. On a dit comme ça, Zé Sefer Bamidbar. C'est la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est aussi la différence entre ceux qui sortent d'Égypte et ceux qui vont entrer en Eretz Israël. C'est assez, le Midrash, il est un peu fort là. Bon, je vais pas faire un cours de Midrash maintenant, mais c'est intéressant. Vous avez un parallèle qui est fait par le Midrash. Or, Rocher, lumière, ténèbres, et ceux qui sortent d'Égypte représentent la lumière, et ceux qui entrent en Eretz Israël, c'est les ténèbres. Les Bnei Israël sont dans une toute autre situation. Hachem n'est plus aussi présent à la lumière d'Hachem à ce moment-là. Donc, quand les Bnei Israël sortaient d'Égypte, Ayahor, Ashgachat Hashem, Mofia, Le'en Kol. Quand ils sont sortis d'Égypte, la lumière de la providence d'Hashem était visible par tous. On voyait très bien, et or ça, c'est justement Kvod Hashem et Tarfit Abria. Le but de la création, ça on l'a déjà vu dans une sorte de situation, le but de la création, c'est que les hommes reconnaissent qu'Hachem les a créés. C'est ça le but. Hachem a créé un monde pour être reconnu comme tel. Alors, tout ça c'est toujours pour nous, mais c'est ça le but de la création. Alors, cette reconnaissance, elle était là sans effort, si vous voulez, des Bnei Israël, quand on est sorti d'Égypte, jusqu'à un certain moment, dans ce Sefer Bamidbar, et en tout cas, ça sera plus si facile, ça sera plus aussi évident. Il va falloir travailler pour cela quand on sera en Eretz Israël. Et le changement, il n'a pas lieu après la mort de Moshe, si vous voulez, il a lieu encore du vivant de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il va en parler dans Parshat Chukat. Par contre, Ba'alichot Ba'ayaharetz, Ayahashgacha Mechusa. Quand ceux qui vont entrer en Eretz Israël, ils ont une Ashgacha, bien sûr, il y a une providence, et cette providence est cachée. Seul celui qui regardait ça, comme on dit, avec un yafé, avec un bon œil, par opposition à un mauvais œil. Un bon œil, ça veut dire que je regarde de façon généreuse. En général, cette expression de un yafé, elle correspond à la générosité. Donc, il s'agit de regarder positivement, de vouloir le voir. Comme quelqu'un qui marche la nuit, donc il est en train d'essayer de regarder tout ce qui peut lui indiquer quelque chose sur les obstacles, sur tout ce qu'il va voir. Et Rakli Frakim, Ayamirgasha Ashgacha Leinkol. Il n'y a qu'à certains moments bien précis que la Ashgacha était visible par tout le monde. Comme un éclair, en quelque sorte, qui illumine la nuit. Et donc, la grande différence était reconnaissable bishnei apkudim shayu shnei inyanim shavim b'chomer ha-ma'aseh v'nishtanu b'tzurat ha-ma'aseh lefi alichot Israël. Alors, c'était deux tâches. Bishum achi b'pam harishona, la première fois, Aya alpi seder ad galim. Alors, ici, pekudim, c'est des tâches, mais c'est aussi un décompte des gens. Mais on va décompter les gens en fonction de leurs tâches. Ils ont un rôle à jouer, du rôle qu'ils doivent jouer dans le monde. Donc, c'est il y a deux grands recensements. Celui du tout début, puis il y en a un autre beaucoup plus tard. Donc ces deux recensements, en fait, il faudra les regarder d'un peu plus près. Quels sont les résultats du numérique du recensement, des deux recensements? Et le premier recensement, il a lieu alpi sederat galim, merba ruchot ke merkava la shchina. Alors, Le début du Sefer Bamidbar, il va faire la liste, va nous dire, voilà, Vaidaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinai Boel Moed, Bechad Lachodesh Hasheni, Hashana Hashenit, etc. Meretz Yisraim, les morts, Seu et Roche Koladat de l'Israël. Hashem va donner un ordre à Moshe Rabbeinu pour que, on va dire, qu'il fasse le décompte des Bnei Israël, en fonction de Mishpechotam, par famille, de Bet Avotam, de Mispar Shemot, Kol Zahar, de Goulov. Il faut un décompte de tout le monde. Et à partir de 20 ans et au-delà, c'est-à-dire les gens qui sont en âge, Yotze Tzava B'Israël, c'est eux que vous allez, Tif Kedou, c'est la chance de vous dire, vous allez les compter en fonction du rôle qu'ils vont jouer. Là, en l'occurrence, le rôle, c'est on les compte comme des soldats. Comme l'armée, les gens qui sont en âge de faire la guerre. Et donc, avec Moshe, il va y avoir, c'est pas Moshe tout seul qui va faire le décompte, on va décompter avec les chefs de tribu, etc. Et on va faire le décompte des Bnei Israël en fonction de leur situation. Alors, la situation du début, c'est la suivante. Le Mishkan est au centre. Et ensuite, autour du Mishkan, il y a quatre groupes de trois tribus qui sont placés. avec chacun un chef de tribu, par exemple Yehuda ou Ephraim, d'accord? Et chaque fois, il y a un chef des trois tribus, flanqué à gauche et à droite de deux autres tribus. Un chef. Donc, et ça s'appelle les Degalim parce qu'ils avaient des drapeaux. Et bien Israël ont demandé à avoir des drapeaux. Dans le Midrash, c'est marqué que quand Hachem est descendu sur le Sinaï, quand il s'est dévoilé au Sinaï, il y avait des anges et les anges avaient des drapeaux, des galines. Les Bnei Israël ont dit, nous aussi on veut des drapeaux. Hachem leur a donné des drapeaux. Vous connaissez ces drapeaux, c'est les drapeaux sur lesquels il y avait des emblèmes, en quelque sorte, de la tribu. Et vous aviez sur la tribu de Naphtali la fameuse gazelle, et il y a le loup dans la tribu de Binyamin, etc. Sur chaque tribu avait en général un animal comme emblème, en fait. Alors, on va voir un autre moment ce que ça peut bien vouloir dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire des drapeaux. Et en tout cas, les Bnei Israël vont être comptés dans la façon qu'ils ont de se tenir autour du Mishkan. Et cette organisation du clan Israël autour du Mishkan, c'est la même organisation que les fils de Yaakov avaient autour du Lidmor de Yaakov. Yaakov a appelé ses enfants, ils se sont installés autour de son lit, et c'est cette configuration-là qu'on a répétée ici, dans le désert. Évidemment, la Torah va donner longuement ici la description de cette organisation-là. Et c'est très intéressant, très surprenant, parce que finalement, cette organisation-là, elle vaudra dans le désert. Mais quand les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, il n'y a plus de traces de cette organisation-là. Donc on peut se demander, pourquoi est-ce que ça devait être organisé de cette façon-là? Enfin, on peut toujours dire que quand on est en Eretz Israël, alors la géographie, si vous voulez, elle va mettre des contraintes. Et on va utiliser la géographie pour placer les tribus de telle sorte que le territoire qui leur est attribué soit le territoire qui correspond au mieux aux qualités de cette tribu, à ce que cette tribu veut faire. On ne va pas mettre une tribu qui est, disons, une tribu de marins, si vous voulez, de gens qui veulent en tout cas prendre la mer. On va pas les mettre autour du Yerushalayim dans les montagnes de Yehuda. On va les mettre au bord de la mer. Bon, on va placer à chaque tribu en fonction de la géographie ou de la géographie physique. Donc c'est une autre organisation. Mais dans le désert, il n'y a rien qui nous permette de nous organiser. Et donc on a inventé une organisation ad hoc pour le désert, où on est sur un territoire qui ne nous dit rien. Le désert ne dit rien. On peut, voilà, installez-vous. Mais alors du coup, on a pris cette installation sur le modèle des Shifteka, des tribus, donc des fils de Yaakov autour de Yaakov. C'est à ce moment-là qu'on a tout le monde autour d'un centre. Là, le centre, c'était Yaakov. Ici, le centre va être le Mishkan. Donc ça c'est le décompte va être en fonction de cela. Et dans ce décompte-là, j'ai remarqué le Netziv, il y aura Ephraim qui sera chef de groupe, donc chef d'un drapeau, et il sera avant Menaché. Mais Ephraim avant Menaché, c'est-à-dire le plus jeune avant l'aîné. C'est-à-dire comme Yaakov l'a béni. Mais Yaakov, quand il a croisé les mains, etc., dans l'histoire, il a placé Ephraim avant Menaché. Par contre, dans le décompte de Parshat Pinchas, c'est-à-dire la 40e année, au moment où on va entrer en Eretz Israël, comme ce sera marqué explicitement, ce ne sera plus comme ça. À ce moment-là, l'ordre va être inversé, et à ce moment-là, on n'aura plus ce problème-là de placer Ephraïm avant Menaché. Et c'est pour ça, à cause de ces deux décomptes des Bnei Israël en fonction de, l'ifkod, ça veut dire compter, mais compter en donnant une fonction à chacun. En hébreu moderne, un pakid, c'est un employé, c'est quelqu'un qui a un fonctionnaire, quoi, si vous voulez. Il a une fonction. C'est pour ça que les Chachamim ont appelé ce sefer Chumash HaPkudim, parce qu'il y a deux décomptes sur lesquels on va devoir s'interroger sur pourquoi deux et pourquoi ils sont un peu différents et quand même pas complètement différents, etc. D'après cette kavana, dit-il, Amrou Chazal, dans la Gemara dans Shabbat, vont dire que Vayi Bitso Aaron ou Sefer Bifne Atzmo, comme je vous ai dit, le verset Vayi Bitso Aaron ensuite, et le verset qui suit, le Lamde nous, ça vient nous enseigner, Bacher, qui Atralat Ashinui, le début du changement entre ceux qui sortent d'Égypte et ceux qui vont entrer en Eretz Israël, c'est à peu près là-bas, Aya min ve'aya ha'am kemitonim. Quand le peuple s'est plaint de nouveau. Et on dit, bishvil she'itnagu bemidat tiferet, den shu miyad achar shechatu. Parce que quand ils étaient dans la midat tiferet, quand ils étaient dans la splendeur, c'est quand ils étaient dans la phase où il y avait présence d'Hachem. Immédiatement quand ils fautaient, ils étaient sanctionnés. Parce que si vous voulez, c'est comme une faute qui est faite dans le palais du roi. Il n'y a pas de tolérance dans le palais du roi. Une faute, sanctionnée. Il y a Yatsela Ashgacha al Yad Yeminam. Donc, c'est une façon de dire, il y avait l'ombre de l'Ashgacha qui était sans cesse là, et c'était intolérable d'être dans le palais du roi, puisque Hachem était avec eux, quoi, en quelque sorte. Et si on faute, il y a des sanctions immédiates. La base aya caché à l'EM Lisbon. Et ça, ça aurait été très difficile à supporter. Achegaram, l'ishlach meraglim. Achayevoua, resh parchat shlach. Et c'est ça qui a causé l'envoi des explorateurs, comme il va le dire. La thèse de théorie de Messie, c'est que c'est lié à ça. Beaucoup d'explications sur pourquoi il fallait envoyer pourquoi il voulait envoyer les explorateurs, etc., comment ça s'est déroulé. Lui, il dit que c'est ça. Mizen, shtalshel, ve'alach, achegia leze, achinui, kasher ivoar sham. Et donc, les choses ont commencé à dégringoler, à ne plus avoir cette hauteur, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'on en arrive, à ce chinois dont on va parler quand on sera là-bas. Imken be parshazu ktana i amchaleket ben shnei ofanei alichot Israël. Donc cette toute petite paracha, ce petit livre entre les deux nounes, il y a deux versets, il y a 85 lettres en tout. 85, c'est p he, c'est p, c'est la bouche, p à p. 85. Achekol chelek bishon yina sefer ou sefer bifne atzmo. Et du coup, la première partie, depuis le sefer, depuis le commencement, jusqu'à ce petit livre composé de 85 lettres de versets, c'est un livre pour soi. Zehailuch, parce que ça correspond. C'est faire bifnatmo, la façon d'être gouverné, la façon pour les ministres de se déplacer, c'est, ça forme un livre pour soi. Parce que la caractéristique de ce livre, c'est la présence divine dans le peuple d'Israël et ses conséquences. C'est marqué dans Parchat Bereshit sur le verset, sur ce sefer, c'est Sipur Inyan Gadol Nikra Sefer. Lui, il a expliqué déjà que quand on raconte quelque chose d'important, ça s'appelle un sefer. Le Sipur, le récit de quelque chose qui est suffisamment important, ça forme un sefer. Ça, le propre, si vous voulez, du mot sefer, en fait. Pourquoi un sefer s'appelle comme tel? Alors, comme je vous ai dit, le début, Vaïdaber, donc Hachem el Moshe, Bemidbar Sinai, pour El Moed. Hachem parle à Moshe Rabbeinu, on est dans le Sinai. Pourquoi on nous dit qu'on est dans le Sinai? Pourquoi on nous le dit? Alors là, le Nessir, il dit, il reste à Tatour, à Makom, le verset nous indique où on en est. Afalgam, c'est un tarif la d'abord. Bien que ce soit absolument pas nécessaire. Sharia doit dans El Moed. Terem, Masu, Barishona, Esrim, la Prodestini, Ayabemid, Bar Sinai. On sait très bien que avant qu'ils se mettent en marche pour la première fois, on était dans le désert du Sinai. Ikonakom, ba, le odia, baiser. Maintenant, il faut quand même expliquer. Puisque c'est pas nécessaire de nous dire que c'est dans le Sinai, parce qu'on l'a compris tout seul, pourquoi est-ce que le verset nous le dit? Il dit, de tachlit aminyan as, parce que le but du décompte qui est ordonné à ce moment-là, le kolze adibou, et donc tout ce qui est dit là, loya kiim mishum shaya bemidbar sinai. Tout ça, ça n'a eu lieu que parce qu'on était dans le désert du Sinaï. Par opposition au deuxième décompte, lui dans le Parchat Pinchas, Shaya Lifne, qui était avant que Chilouka Aretz, comme vous voyez ça, avant qu'on décide du partage de la terre, comme ça serait écrit. Ou de Ptichal Zéa Sefer, comme je l'ai aussi écrit dans ce qu'on vient de lire ici. Ishumachi aya shinui de Seder Aminyan, c'est pour ça que il y aura un petit changement dans l'ordre du décompte. Par exemple, l'histoire entre Ephraim et Menaché. Entre ici où Ephraim était d'abord et là-bas où c'est Menaché. Vayotzrichi, ayunitzrachim lelech kol amidbar agadol, ad boram el eres noshavetz. Il fallait qu'il traverse tout ce grand désert avant d'arriver vers Gabriel, vers Israël. Veloya Efchar, im Be'ashrat Shchina, Be'aflaga Yetera. Et ça n'était possible que parce que la manifestation de la Shchina était magnifique, c'était énorme. Vayu Nim Shalim, Be'ota Sha'a, Kmo Melech, Aolech, Be'rosh, Tzfao, Midbar, la Milchama. Et donc, c'est comme si il y avait le roi qui marche au milieu de son armée, à la tête de son armée plus exactement. Il est en ordre de marche. Vein melech olech be'atzmo bichvodo. Mais le roi, il marche pas tout seul. Kiim be'machane kvuda ve'aguna. Il doit être accompagné d'un camp, enfin de beaucoup de gens convenables, c'est ça son kavod. Le kavod, c'est d'être entouré par beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il fallait la Shratashrina, et parce qu'il y a la Shratashrina, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, il faut qu'on se rende compte de combien il y a de gens. Ok, de Itav Vakama, comme la Gemara dit, la Metra, Shen Shrina Shora, Al-Pachot, etc. Il n'y a pas de présence divine en dessous d'un certain nombre de personnes. Et là-bas, il s'agit de Nashra quand on est stable, quand on bouge pas. Alors là, on peut se contenter des fameux 22 000. Mais ici, c'est Ashrana, c'est Ashrat Ashrina de Ilouch. C'est l'Ashrat Ashrina en mouvement. Donc c'est comme dans la guerre. Et donc il fallait pour ça le nombre auquel on va arriver, les 600 000, etc. Alors, le Ramban et le Midrash d'ailleurs aussi sont déjà arrêtés sur le fait que quand on regarde ce décompte et qu'on le compare à celui de Ramban Pilchas, alors et aussi quand on regarde exactement le décompte qui était quelques mois auparavant, les Israël sont sortis quelques mois auparavant. Et il y a beaucoup de choses inutiles qui ont été dites sur ces différents décomptes. Mais d'ati, d'après moi, dit le Tiv, Vacher l'onim nu kvim yotze tzava. Ce qui est important ici, c'est pourquoi tout à coup, on ne compte que ceux qui sont en âge de faire la guerre. Donc, quelque part, ceux qui sont en âge, d'être compté parmi l'armée du roi pour faire les guerres contre les Cananéens. Le premier minyan, le premier décompte, il donne comme résultat 600 000, 600 alafim, 603 000, 603 500 et 603 550. Donc, c'est ça. C'est ça, en quelque sorte, le chiffre, le nombre de soldats qui correspondent au kavod d'Hachem en tant que roi et en situation où le roi se déplace pour la guerre. Alors, on sait, à Doua, le Midrash Yot, le Midbar Zer, on comprend que dans le désert, il fallait qu'il y ait ce nombre-là. ומאז ואילך אפילו נעשו עוד הרבה בני 20. Et donc il explique maintenant. Il y a plein d'enfants qui dans le désert vont atteindre l'âge de 20 ans. Donc ils vont normalement venir gonfler le nombre des soldats possibles. Il colle ma com néanmoins, c'est important, l'on y reçoit la phrase Imanot. Néanmoins, ces jeunes gens, bien qu'ils aient atteint l'âge d'être incorporés, on ne les a pas comptés dans le nombre de soldats. C'est-à-dire qu'on a pris parmi les nouveaux arrivants à l'âge de 20 ans que ce qui était nécessaire pour combler les manques, parce qu'il y a des gens qui sont morts, des gens qui sont sortis d'une manière ou d'une autre de la tranche d'âge des soldats. Il a fallu, on a pris dans la réserve de ceux qui avaient atteint l'âge de 20 ans, on a pris que ce qui était nécessaire pour compléter, de telle sorte que qui va expliquer qu'il y a une espèce de constance du nombre de gens, alors qu'on est maintenant et 40 ans plus tard. Et aussi le nombre de gens qui sont sortis d'Égypte. Donc, comment c'est possible qu'avec, il y a quand même des changements, la démographie, elle est pas, les gens, ils sont pas été, ils sont pas restés tout le temps à cet âge-là. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Peut-être le chiffre qui est donné ici, c'est le chiffre qui correspond à la gloire divine, si vous voulez, la gloire du roi. Donc il faut le 603-550. Et maintenant, si maintenant il y a des gens qui meurent, ou des gens qui sortent par le haut de la tranche d'âge des éventuels soldats, ben, il faut les remplacer, et on va les remplacer par des gens qui sont arrivés à l'âge de 20 ans. Mais les autres, on ne va pas du tout les mettre. Donc le deuxième décompte ne sera pas du tout un décompte véritable de gens qui ont 20 ans, qui sont mobilisables, mais uniquement des gens qu'on a effectivement mobilisés. Donc ceux qui sont restés dans la tranche d'âge depuis le début, et ceux qui sont venus compléter les défections naturelles. Donc, comme ça que règle le problème de l'étonnement qu'on est obligé d'avoir quand on voit la quasi-constance de cette population dans l'âge de la mobilisation pour faire la guerre. Sur ce pasouk de Midbar Sinaï, il y a un enseignement, c'est par exemple du Gaon, qui dit la chose suivante. Kol mi she'eno ose asmo ke midbar, efker, eno yachol liknot et ha chokhma ve ha Torah. Kach ne'emar be Midbar Sinaï. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit ici Bamidbar Sinaï? Parce que celui qui ne fait pas de lui-même un désert, Efker, c'est-à-dire, il n'a pas de recherche d'exister égoïstement pour lui-même, celui-là, il ne peut pas acquérir la Torah et la Chokhmah. D'accord? Ça veut dire que il faut une extrême modestie, en fait, pour pouvoir étudier la Torah. Parce que, si vous voulez, si la personnalité n'est pas mise au service de la Torah, donc, si on n'empêche pas si on n'est pas maître, et si on laisse la bride sur le cou, en quelque sorte, à sa propre personnalité, elle ne laissera pas entrer la Torah. Et la Chokhmah, dit le Gaon. Im chachamta, chachamta lach. C'est-à-dire que, sache que la sagesse, elle est pour toi. Si tu deviens plus sage, c'est pour toi que tu deviens plus sage. Par conséquent, la Torah dit, c'est construit sur les psukim de Michelet, Sheyelech levado, la Torah, elle dit là-bas, ne suis pas les rechaïm, même si tu as été tout seul, affirme le chiachotam. Ne te mêle pas aux rechaïm, même pas pour leur faire la morale. D'accord? Ne te raconte pas des histoires, tu vas faire du petit rouge ou des machins, tu vas aller avec les rechaïm pour essayer de leur faire la morale. V'yeh yoshev v'prishut tamid. Zehu im chachamta, klomar, im teshev levadcha v'tilmad, lecha yi alimud usharo. Si tu te consacres à l'étude, alors ce sera pour toi. V'im yashavta ben bnei adam, v'latset levadcha tisa. Afilu ma shehem mitlotsetsim, ata levadcha tisa avonam. Et si toi tu vas avec eux, même si eux ils se moquent, c'est toi qui vas porter leur faute. La Torah kasha liknota. La Torah est difficile à acquérir. C'est marqué dans le Zohar, Shesech Tahara, Kedusha, Prishut. C'est-à-dire, la Torah, kol kuda bat melech pima. La Torah, ici sur la Torah, ce qu'on dit sur les femmes, que tout son honneur c'est dans l'intériorité. Dans l'intérieur. Être capable d'être seul. Kora et Adam, les chèvres, Ita. Ainsi que l'homme a s'asseoir avec la Torah, en quelque sorte. Gamken, même quitte à être seul. Bon, ça c'est une lecture, bien sûr. C'est un élément. On peut pas aller jusqu'au bout de. Enfin, je ne sais pas. C'est un chemin qui est bon. On a l'impression que c'est ça le chemin que le gars en a pris. Et bon, est-ce que c'est pour tout le monde? Cet enseignement, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, bien sûr, c'est marqué dans Pirkei Avot que Karkidarkash el Torah, le chemin de la Torah, c'est pour arriver à la Torah, c'est pas Bemelar Tochal, Maim Bamsura, Ishte. C'est-à-dire, c'est du pain, un peu de sel, un peu d'eau. Et si tu fais comme ça, Shrecha Vetovla. Tu seras heureux et ce sera bien pour toi. Il y a deux à Pérouche Bézé, on sait qu'il y a une explication de ce Pirkei Avot. Et Aïch Abal l'Ilmod, quand quelqu'un vient pour commencer à étudier, il trila et kabel alav et kola amour pour le matnitin. Le lichyot chayetza. Au début, il accepte tout ce qui est dit. Il est prêt à manger de la vache enragée pour étudier. Im yé chayé. Maintenant, si au contraire, il veut une vie de sarim, de prince, de jouissance, loyasik derech la Torah, il n'arrivera pas du tout à la Torah, ça il le sait. Donc ça, il est prêt à le faire au début. Ulam achakach yuchal lirot tov gam meolam hazeh. Zeu she'amar kachi darka shel Torah. Après, une fois qu'il a acquis la Torah, il peut regarder réellement les choses de ce monde et même éventuellement en profiter aussi parce qu'il saura comment en profiter. C'est pour ça qu'on dit c'est le derech de la Torah au sens c'est ce qui va mener à la Torah. Dans la phase d'acquisition, ça demande beaucoup d'assaise quasiment. A derech lavo elea. C'est shikabel alav pat bamelach, etc. C'est accepter une vie éventuellement difficile. Mais après, yuchal yot ashrecha betom. Et bien, Olam Hazeh, après, tu peux te réjouir de Olam Hazeh. Tar Omrim Meshem Agra. C'est qu'on, si on rapporte ça au nom du Gaon de Vilna. Bon. Alors, il parle beaucoup sur, justement, l'acquisition de la Torah. Là, c'est la Torah, quand même. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour, acquérir la Torah. Alors, dans le passage, c'est marqué que le découvre sera le Mishpechotam, le Bet Avotam. Les maisons paternelles, en quelque sorte. Alors, il enseigne ici pourquoi est-ce que le décompte il se fait le Bet Avotam pour nous, alors que pour le Omot HaOlam, c'est le contraire. Eux, on leur a interdit les harayot seulement du côté de la mère, pas du côté du père. Dans la mesure où le père est paternel. Bon, donc on a interdit du côté de la mère. La famille du côté de la mère. Il y a un issour des harayot chez les goyim, mais c'est pas les mêmes que chez nous. C'est uniquement, du point de vue des bnei-noar, donc c'est uniquement le côté, côté de la mer. C'est comme si un goût, Aviv, Azria, Loven, Misham, Atsamot, donc on explique, Agmar, elle dit que la contribution du père et de la mère dans la fabrication de l'enfant, elle est, chacun fait partie. Et par conséquent, les Omot HaOlam, chez eux, c'est marqué que elle a aimé comme eux, ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de triat hametim. Donc, ils n'ont pas ce problème-là. C'est la raison pour laquelle la puissance du Père n'est pas tellement incluse, si vous voulez, et le Icare, c'est le côté de la mer. Et ça, bon, c'est quelque chose qui va effectivement disparaître. C'est pas la côte, c'est pas les eaux, c'est la chair, en fait. La mer, c'est le côté de la chair, le terre, c'est du côté des eaux. Et les eaux, ça tient plus longtemps, disons. Et donc, c'est la raison pour laquelle le conte, chez nous, il est Vetavotam. C'est un remède sur le fait que il y a Triatametim, en fait. Donc, la tide de la veau, il y aura Triatametim. Au début, on a toujours cette fameuse vision des ossements. Or, les ossements, c'est, dit l'Agmara dans l'Ida, c'est produit par le Père. Je sais pas comment ça veut dire du point de vue de la biologie ou du point de vue de formation du corps. Et donc, c'est ça la fameuse vision dans Yeheskel où on dit, Kohama Hashem, Lokim la Tsamot Aele, il a parlé, tu parles aux ossements. Voilà, je vais vous amener du souffle, en fait, et vous allez vivre. Ensuite, je vais vous mettre des tendons, et je vais vous ajouter de la chair. Je vais vous mettre de la peau. Sodaïnyan ki Adam le mata, ou mamash me dougman Adam le leila. Donc le sens, c'est que ça correspond en fait, tout ce qui se passe dans le monde d'en bas correspond à ce qui se passe dans un monde supérieur. Et toute cette description-là, elle est le pendant réalisé concrètement, si vous voulez, de quelque chose qui se joue dans les mondes d'en haut. Alors il dit, on va compter les gens, Betavotam, Bemispar Shemot, le nombre de noms. Compter le nombre de gens par leur nom. Alors, ici il ajoute le Minyan ou Biklalut. Minyan, c'est en général. Et Mispar, c'est le Pratut. Minyan, c'est un regard global, si vous voulez, et le mispar, le chiffre en quelque sorte, le nombre exact de personnes, c'est le mot mispar. Chez Yetziat Mitzrayim, à sortie d'Égypte, c'est marqué Shesh Meot Elef Ragli, marqué des 600 000 Ragli. Et dans le Bamidbar, ici c'est marqué, moi, c'est marqué, Todotam, le Mistokotam, le Mispar, c'est mot, Kozachar, le Kozachar. Agli, c'est une façon de parler de façon générale. Agli, c'est des marchands, des gens qui marchent, quoi. Donc c'est un regard, là-bas, c'était un conte global. Et ici, dans le désert, ici, le conte est un conte des pratim. On entre ici dans le détail, parce que si vous voulez, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était une masse de gens qui sont sortis d'Égypte. Quand c'était pas encore un peuple, vraiment. Et donc, un peuple s'est fabriqué, ce sont des individus qui ont une importance. Tandis que c'était encore une masse presque informe, qui n'est devenu un peuple qu'au pied du Sinaï. C'est à ce moment-là, quand ils allaient accepter la Torah, ils allaient effectivement devenir un peuple. Ils deviennent vraiment un peuple. Parce que la Torah, elle a été donnée au clan Israël dans sa totalité. Ou si vous préférez, la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, qui représente le clan Israël. Ensuite, Moshe Rabbeinu l'a donné au clan Israël, et après, ça descend au niveau des individus. C'est comme ça que la Torah, elle fabrique les individus parce qu'elle est la Torah. C'est le cheminement de la Torah qui fabrique les individus. C'est pas il y a des individus qui prennent leur part de la Torah. C'est comme ça que fonctionne le monde, si vous voulez. Le monde, il fonctionne comme ça qu'on a vu ça dans, un peu dans les livres. C'est que la Torah, c'est le fameux plan du monde, si vous voulez. Mais c'est un plan qui est en évolution permanente. Puisque la Torah, ce sont les hommes qui la fabriquent au fur et à mesure. Par conséquent, l'évolution des hommes, bon, ils fabriquent de la Torah et du coup la Torah, elle influence le reste du monde et en retour aussi de nouveau les hommes. Ils de nouveau peuvent aller au-delà et fabriquer de la Torah, inventer de la Torah, toujours selon des règles, des herméneutiques, des règles, etc. Ce sont les hommes qui fabriquent la Torah. Mais justement, ils fabriquent la Torah et c'est la Torah qui fabrique les hommes en fonction de cette Torah, puisque la Torah c'est le plan du monde. Donc elle fabrique le monde, elle fabrique en particulier les hommes. Mais c'est les hommes qui fabriquent la Torah, c'est ça l'extraordinaire, si vous voulez, cette espèce de partenariat impensable entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et la Torah elle est à nous, et c'est nous qui la développons. Et en développant la Torah, on construit le monde, puisque Hachem va construire le monde en regardant la Torah. Mais la Torah elle est en train de se faire. C'est ça, les fameuses marottes où on rencontre Eliyahu Hanavi, on lui demande qu'est-ce qu'on dit dans la yeshiva chez le Mala, dans la yeshiva d'Hachem. Eliyahu dit, juste ce qu'ils étaient en train d'étudier. Meir, mon fils, il dit comme ça, et celui-là, il dit comme ça. C'est-à-dire que la Torah d'en haut, c'est la Torah que les hommes ont fait. C'est ça, désormais, la Torah. Quand Rabbi Shob, Amand al-Raglav, Ve'amar, Lo Bashamayim Hi, la Torah, elle est plus dans le ciel. Elle nous a été donnée à nous, c'est nous qui décidons. Je sais que c'est tout à fait bouleversant, si vous voulez. Bon, c'est ça, en fait, les bouleversements du Midrash qu'on est en train d'étudier jeudi soir. Bon, c'est énorme, c'est tout à fait énorme, en réalité. C'est pas du tout ce que on croit en général. Pas comme ça. Donc là, c'est bien comme ça, c'est ici, on va parler de la fonction de chacun, du rôle de chacun, on va décompter les gens, et alors, avec toujours le même problème, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de compter les gens? Et pourtant ici, on voit bien que Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de compter les gens. Il va pas compter les gens, il va compter les noms. C'est-à-dire, le nom, c'est dire l'essence de la personne. On ne pense pas que les noms, en général même, soient des conventions. A priori, le nom de quelqu'un, ou de quelque chose d'ailleurs, est censé refléter la chose. Donc, c'est une question linguistique aussi, mais disons, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Le nom reflète ou représente la chose. Si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a cette identité, si vous voulez. Le mot davar, il est à la fois la parole et aussi la chose. Bon, ben, même que la parole devient chose, devient le sépéci, elle devient chose. La même chose, la parole, le nom, c'est une parole, donc elle doit correspondre à une chose. Donc, et d'ailleurs, quand les Bnei Israël vont être comptés ici par Moshe Rabbeinu, vont être comptés, et Moshe Rabbeinu va leur parler, va leur demander leur nom, et oui, il le sait, je sais pas, et il va les nommer. Donc c'est tout sauf un dénombrement qui ramènerait les gens à des... où les gens seraient interchangeables, ce qui est justement le problème, en général, quand on compte les soldats, surtout si c'est de la chair à canon, on ne s'occupe pas de savoir comment ils s'appellent, etc. Et on compte le nombre de soldats. Mais là, on les compte en âge d'aller faire la guerre. La guerre qu'ils vont faire, c'est pas une guerre au sens habituel du terme, d'ailleurs, puisque c'est une guerre qu'ils vont faire avec Hachem, etc. C'est une guerre qui va se dérouler autrement qu'une guerre ordinaire. Donc, que, à la suite de la faute des Meraglim, les choses vont un peu changer. Et donc, ici, c'est un décompte où on, si on dit les noms des gens, c'est-à-dire qu'on les, on les ramène pas à un numéro. C'est pas le 1, le, toi t'es 1, toi t'es 2, toi t'es 3. C'est au contraire. Toi t'es Avraham, toi t'es Yitzhak, toi t'es Yaakov, toi t'es Moshe, Aaron. Donc c'est ça l'important, si vous voulez, l'importance des individus qui composent ce décompte de soldats d'Hachem. Les soldats d'Hachem ne sont pas des soldats interchangeables. Chacun a sa fonction. Ils ne sont pas du tout interchangeables. Voilà, ça c'est une chose que on est rapporté au nom du Gaon Essien. Bien, alors, on va sauter un peu ce décompte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de choses, mais finalement, il y a un décompte des Bnei Israël, et puis les Lvim, comme ils ont des fonctions tout à fait différentes, ils sont comptés à part. C'est écrit dans le Pasuk Lamed Gimel du chapitre, du 12e chapitre. Balvim lo otfakzur betor Bnei Israël. Les Lvim n'ont pas été comptés avec les autres. Parce que c'est une toute autre occupation que la leur. Et Hachem dit, voilà, d'abord Hachem et le Moshe, les morts, à crève et smate Lévi, rapproche la tribu de Lévi, ve hamata oto lifne Aaron à Cohen, et tu vas les mettre devant Aaron, ve cher tout oto, ils vont être au service des Kohanim. Et ils vont garder, bon, ils auront des fonctions de surveillance du Mikdash, en l'occurrence, ça va être le Mishkan. Et puis, c'est eux qui vont garder le Kol Kleo El Moed, etc. Et puis, il y a... voilà, ensuite, Hachem dit dans le Pasuk Yud Aleph, du troisième chapitre, « Vaidaber Hachem El Moshe Lemor, Vani, et quant à moi, Hine Lakarti Et Alvim, j'ai pris l'Elvim, Mitor Bnei Israël, du sein des Bnei Israël, donc j'ai sorti les Lvim, Tachat Kol Bechor, à la place de chaque Bechor. Les Bechor, c'était Peter Vechem, ceux qui ont ouvert la voie, les voies basses, donc ils sont, ça exclut les sens par l'Arienne, les Bnei Israël, Vayu Li Alvim, Yachim. Les Lvim sont à moi. Pourquoi? Parce que Li Kol Bechor, parce que les prorotes, c'était à moi. Quand c'est que je les ai acquis, Vio Makoti Kol Bechor Beretz Mitzrayim. Quand j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, j'ai, en quelque sorte, en sauvant les Bnei Israël, les prorotes des Bnei Israël, j'ai acquis les prorotes des Bnei Israël. Igdashti li Kol Bechor Beisrael. Je les ai sanctifiés pour moi. Mais Adam va démarrer, que ce soit les hommes ou que ce soit les animaux, donc, comme les Bechorot étaient à moi, et que maintenant j'ai substitué aux Prorot les Lvim. Les Prorot se sont disqualifiés avec l'histoire du Vaudor, parce que quand quelqu'un a servi une idole, il ne peut plus servir au Beth Amigdash. Bon, il y a des incompatibilités. Si un jour tu étais au service d'une idole, donc ceux qui ont participé au Vaudor, ils ne peuvent plus participer. Ils ne peuvent plus, donc il faut remplacer les prorotes. Et donc je vais les remplacer par les Lvim. Donc ça c'est ce qui est annoncé là. Voilà, la fonction des Lvim. Et ensuite, on explique que, voilà, pourquoi l'Elvim? Parce que je les ai pris pour remplacer les prorotes. Alors maintenant, Hachem dit à Moshe, toujours de Midbar Sinai, on répète toujours Midbar Sinai avec tout ce qu'on a vu au début. Il a dit, Kod et Bene Israël, le Betavotam, toujours, tu vas décompter les Bene Lévi en fonction de leur maison paternelle. Kod Zachar, Miben Kodesh, Vamala. Là, on compte, on va les compter à partir d'un mois. Dès qu'ils ont un mois, tu vas les compter. C'est ce que Moshe a fait. Et donc, on nous dit, voilà, est-ce qu'on l'a compté? Alors, on dit, nommément, Gershon, Kirat, Merari, etc. Et ensuite, le détail de toutes les familles. Puis, il y a une chose qu'il faut, sur laquelle il faut insister. Bon, encore, disons, pour compléter ce qu'on a dit sur Hachem a pris l'Elvim, Vayomer Hachem el Moshe, le code Kol Bechor Zachar l'Ibn Israël, Miben Kodesh Vamala. Maintenant, tu vas décompter chez l'Ibn Israël tous les premiers nés à partir d'un mois de nouveau. Et donc, je veux que tu fasses le total de Shmotam, des noms. Ve la carta est alvim, li, et tu prendras l'Elvim pour moi, ami Hachem, tachat kol bechor, c'est répété, maintenant c'est Moshe qui doit concrètement le faire, à la place de kol bechor bivne Israël. Même chose, les behemot d'Elvim à la place de celle des prorot. Voyez quoi de Moshe kacher, tiva sifoto, Moshe Rabbeinu a fait ce décompte, on nous dit combien ils étaient. Et du coup, il y a un problème. Un problème, c'est que on a voulu prendre les Lévim à la place des prorotes. Et d'abord, Hachem el Moshe est mort. Tachat al Lévim, tachat kol bechor. On va remplacer terme à terme. Un bechor pour un Lévi à la place d'un bechor. Et une bête de Lévim à la place d'une bête des prorotes. Et donc, les Lévim seront à moi. Seulement le problème, c'est que Ved Pedouye à Shlosha Vishivim et à Mataim, donc il y a 273 à Otfim à l'Alvim et Prov Neitrail. Il y a 273 de Chorot en plus d'Elvim. Donc je ne peux pas échanger terme à terme parce qu'il va me rester les Chorot que je n'ai pas remplacé par des Lévim, parce qu'il n'y a pas assez de Lévim. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comment on va se débrouiller? Hachem, il propose un échange, mais il y a trop de Bechorot et pas assez donc de Lévim pour remplacer les Bechorot. Alors, solution. La carta Chameshet Chameshet Kalim la Goulgolet Veshekel HaKodesh Kitar il va prendre 5 shekel par tête de Bechor. Mais la tata à Kesef, la Aaron ou le Banav, et il faudra donner cet argent à Aaron et à ses fils, pedouye à Otfim Bahem. Comme rachat des Bechorot qui sont en trop. Rekach Moshe et Kesef Abdouye à Pignon. Donc, Moshe Rabbeinu a pris cet argent du Racham, mais Kaotrim, qui correspond à ceux qui sont en trop par rapport au nombre de Lévim. Il l'a pris, mais Ed Bechor Bene Israël, la carte à Kesef, on a pris ça des prorotes d'Ebne Israël, on leur a pris cet argent, et c'était Chamisha Veshishim Shalosh Meot, de Elef Veshekel Akot. Donc, c'était, il y a 5 shekels par, pour les 273 qui étaient en trop. Et a donné cet argent, à Aaron, et à Hachem, qu'Hachem, t'y va Hachem et Moshe. c'est pas ça. Je veux dire, on a remplacé des prorotes qu'on pouvait pas. Alors, c'est comme si on avait donné des heures sup. On va payer les heures supplémentaires ou les tâches supplémentaires. Elvim, ils vont devoir faire un travail. Chacun va, d'une certaine manière, faire plus que ce qu'il devait faire. Normalement, un Lévi devait remplacer un Bochor. Mais maintenant, entre les Lévim, ils doivent se répartir les 273, remplacer 273 Bechorot entre eux tous. Alors, comme eux, ils sont au service d'Aaron, c'est Aaron qui reçoit l'argent. C'est comme si les Bechorot se rachetaient par ce biais-là. C'est-à-dire, ils se rachètent. Voilà, j'ai pas de Lévi qui va me remplacer. Donc, il faut en quelque sorte, dans l'idée, ce serait, je vais payer un Lévi pour qu'il fasse des heures sup pour me remplacer, quoi. Vous comprenez? C'est ça l'idée des shkalim qui vont remplacer les prorotes pour chaque bechor, 5 shekels. Il va donner 5 shekels pour être remplacé. Les Lévis vont prendre sa tâche. Alors, Rachid dit une drôle de chose ici. Il dit, sur Vet Pedouye à Shlosha, et les pidyons des 273, les prorotes qu'il fallait racheter, puisqu'il n'y avait pas de Lévi pour les remplacer. Hello, donc Shlosha Vel Shivim ou Mataim Aotfim Baem, et Térim à l'Alvim, donc Rashi va peut-être plus en pasouk. Mehem tikach hameshet shkalim la gulbolet. Tu prendras pour chacun d'entre eux, de chacun d'entre eux, 5 shekels. Et d'où ils viennent ces 5 shekels? Pourquoi 5 shekels? Pourquoi pas 3 ou 18? Kach haïta mechirato shel Yosef. D'accord? On prend comme modèle la vente de Yosef, Esrim Keser, Shaya Bechor Shel Rachel. C'est-à-dire que, comme Yosef était le Bechor de Rachel, et on l'a vendu, donc la valeur d'un Bechor, c'est le montant de la valeur de Yosef. Et quand on a voulu remplacer donc les prorotes par les Lévim, comment est-ce qu'on évalue? Ah oui, il faut le remplacer par de l'argent. Combien? Ça vaut combien? Est-ce qu'on va, prendre... Voilà, invité à fermer son micro. Est-ce qu'on va, on aurait pu imaginer qu'on va voir combien ils valent au marché aux esclaves, je sais pas. Ou bien on va prendre le montant qui leur correspond dans le tableau de Rachim. On pourrait prendre, imaginer beaucoup de choses, là. Rachim ramène que le montant, il a été fixé par comparaison avec la vente de Yosef, étant donné que Yosef était un Bechor. Il n'est pas le Bechor de Yaakov, mais le Bechor de Rachel. Donc, c'est l'enfant que Yaakov a eu avec Rachel, le premier qu'il a eu avec Rachel. Comme c'était ça le chidouch initial de Yaakov, quelque part, Yosef, il a un statut de Bechor, d'ailleurs il va avoir un statut de Bechor, puisqu'il va avoir la double part avec Ephraim et Menaché. Yaakov lui a donné la double part. Alors, Pedouyav à Odfim, donc dans le Pasouk, on dit c'est combien? C'est pas 5 shekels. Alors, le Netziv dans la Megdavar, il dit, Hirush, Sheitel le Shem Pidyon Dafka. Il fallait le donner en tant que Pidyon, en disant, voilà, c'est mon, je me rachète. Quelque sorte, je devrais normalement être au service d'Hachem, d'accord, mais je suis disqualifié, alors je me rachète, quelqu'un d'autre va faire le job à ma place, et la Torah a prescrit que je donne 5 shekels. Alors voilà, 5 shekels comme pidyon. Et le Siv dit, le Chénadine le Dorot, et la phrase sera comme ça aussi, Im Natan la Kohen Chamesh Slaim, Velo Piresh Sheu Bishvil Pidyon, Amen. Quelqu'un donne à un Kohen, il a un Bohon, il donne à un Kohen et il lui donne 5 shekels, mais il lui dit pas que c'est en tant que Pidyon. Lui, à ça, il est Chovato. Il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Il faut le donner le Shem Pidyon. Si on dit, bah, tu dois me payer ça, non, tu ne dois pas te payer. C'est un pidyon. Il faut que ça ait la valeur d'un rachat. Si c'est pas vu comme un rachat, ça marche pas. C'est important. Et quand on veut faire la mitzvah de pidyon, d'accord, il faut vouloir faire un pidyon et pas simplement payer au Kohen de l'argent pour pouvoir récupérer mon enfant. Puis encore, bon, il reste encore une chose très importante. C'est les Lévi'im, ils vont avoir la charge. Quand les Israël vont se déplacer, il faudra démonter le Mishkan. Bon, il est en kit, le Mishkan. Donc on va le démonter, on va le transporter en morceaux, et on va le reconstruire à chaque fois. On va de nouveau s'installer quelque part. Et donc ça, ceux qui vont faire le déménagement, en quelque sorte, ce seront les Lvim. Et puis, alors, dans le dernier morceau qui est le morceau du martyr, il est dit, Vaidamer Hashem el Moshe vel Aaron lemor, Al tachritu et shemet mishpechot akirati. Faites attention de ne pas être de la chambre carrette, de ne pas éliminer, détruire la tribu de la, enfin, la tribu en vérité, la famille de Kehat, les descendants de Kehat, parmi les Lévi'im. Pourquoi? Parce que Zot Asu Laem, voilà ce qu'il faut faire pour eux. Eux vont transporter quelque chose de très, très difficile à transporter. Voilà ce qu'il faut faire pour eux, Vechayu Veloyamutu, pour qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas. Le Gishtam et Kodesh HaKodashim. Le problème, c'est que ils vont démonter, enfin, on va devoir démonter le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et eux vont le transporter. Or, le problème, c'est qu'il faut faire attention. Aaron ou Vanav yavo, vesamo, tab, ish, alabodato, valmasao. Lo yavo, lirot, vela, ta Kodesh, que vala, ta Kodesh, connaît. Les gens de Kehat, ils vont transporter. Mais ils n'ont pas le droit de voir le Kodesh HaKodashim démonté. Donc c'est les Kohanim, c'est Aaron et ses enfants qui vont venir, qui vont démonter, ils vont emballer tout ça dans les fameuses tentures, enfin dans les fameuses couvertures de trellettes, etc. Et eux vont transporter des paquets fermés. Parce que si ils voyaient les choses, ils en mourraient. C'est-à-dire que on comprend très bien ce qui se passe. Le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce que c'est? C'est un peu de bois, un peu de tenture. Tu veux lui accorder, c'est le Saint des Saints. toujours le problème, c'est que quand tu le démontes, si on le réduit à ça, alors on perd tout respect du Kodesh HaKodashim. Donc ceux qui sont obligés de constater la réalité, que en fait c'est sûr que ce qu'on fait dans le Mishkan ou dans le Beit HaMikdash, il y a des côtés qui ressemblent à de la boucherie. On fait aussi des travaux, on manipule des matériaux, qui sont des matériaux, c'est tout, c'est des tentures, c'est du tissage, c'est du bois, etc. C'est pas de la spiritualité pure. Non, c'est pas abstrait, c'est très concret, et si on le ramène à ses composants, alors il n'y a plus aucun respect, quelque chose possible. Et donc ceux qui sont obligés de manipuler, c'est-à-dire les Kohanim qui sont sur le terrain, qui eux, ils savent bien qu'ils manipulent de la viande, qu'ils manipulent, ils vont tuer, ils vont aider, ils manipulent de la peau, etc. Ils font des omelettes, enfin ou dans des crêpes, pardon, des crêpes, etc. C'est des choses très concrètes auxquelles on a donné une importance, mais il faut dans tous ces rituels, en fait, dans tout ce qui ces choses-là, c'est très important de leur laisser leur puissance. La Gemara, elle dit que si on commence à regarder un être humain ou une femme, on regarde, si tu regardes finalement c'est combien, c'est un peu d'eau, c'est un peu de graisse, un peu de poil, un peu de peau. Si toutes les choses, si tu trouves une peinture qui est très belle, tu dois regarder, moi, ça c'est des pigments, et ça c'est... Donc, quand on réduit les choses à la matière, ça perd tout l'emplus qu'il y a. Quand tu construis quelque chose, quand tu lui donnes un sens, quand tu lui fais jouer un rôle, donc là c'est très important, il y a des gens qui vont transporter le code de Saint-Denis, c'est la famille de Kehat, et si on ne prend pas des mesures pour les empêcher de voir, si les Kohanim n'emballent pas les choses, et qu'ils sont obligés de venir pour emballer, ils ne pourront pas ne pas regarder, et réduire le Kodesh HaKodashim à de la matière, et donc c'est dégradant, et donc ils vont en mourir. Et donc là, il y a Moshe, Hachem parle à Moshe et à Aaron, et il leur dit « Faites attention. » D'accord, il faut, voilà ce que vous allez faire pour eux, « Vechayu, Veloyamutu. » Ça, ils vivront, ils ne vont pas mourir. Il faut que vous fassiez ça. Si vous ne le faites pas, alors, yamutu, yavou, lirot, kevalat, akodesh, yamutu. Sinon, ils vont être obligés de venir et de regarder comment on démonte le Kodesh, le Kodashim, et ils vont mourir. Donc, il y a une opération qui... qui doit être faite en préservant la dimension mystérieuse du Kodesh HaKodashim. Il faut travailler ça. Si on ne travaille pas, ça marche pas. De même que ça existe, en fait, c'est dans le monde humain aussi, hein, une façon de regarder un être humain, de le réduire à ses composantes. Bon, alors c'est, à la limite, c'est ce que faisaient les nazis. C'est un stuc, c'est un morceau, une pièce. Oui. C'est vrai qu'en France,